Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour cet entretien mensuel diffusé simultanément sur Radio Lapourdi, Ratia en Pays Basque et sur Radio Présence en Bigorre et Béarn. Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous allons évoquer différents thèmes aujourd'hui. Tout d'abord, Monseigneur, votre lettre pastorale que vous venez de publier. Nous allons parler également de l'enseignement catholique et des jeunes. Et puis, en fin d'émission, nous parlerons plus précisément du denier de l'Église, puisque c'est la période. Et enfin, nous reviendrons sur quelques moments forts de notre vie diocésaine. Alors, Monseigneur Ayé, vous venez de publier une lettre pastorale dans laquelle vous annoncez la consécration du diocèse au cœur de Jésus et de Marie. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire une lettre pastorale sur ce sujet ?
Alors, j'ai bien conscience que cette démarche de consécration de notre diocèse au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur Immaculé de Marie, que j'ai annoncé déjà dans mes deux précédentes lettres pastorales, en 2010 et en 2013, n'est pas forcément compris de tous. Et c'est vrai que je voulais montrer la pertinence de cette démarche communautaire du diocèse, en ces temps qui sont les nôtres, l'actualité aussi d'une dévotion qui pourrait paraître à certains un peu désuète ou dépassée, qui est inscrite dans la tradition de l'Église et dans l'histoire de la dévotion chrétienne, et qui trouve même son enracinement dans la Révélation, la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'une courte lettre pastorale, pour une fois n'est pas coutume, permettait de bien poser les choses pour que chacun puisse s'y engager, se sentir concerné, sans préjugés et sans trop de résistance.
Alors vous faites venir les reliques d'une sainte, vous aviez déjà fait venir les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette fois-ci, c'est Sainte Marguerite Marie à la Coque. Alors, pouvez-vous nous parler de cette sainte et nous dire finalement comment est née cette dévotion au Sacré-Cœur ?
Alors, Sainte Marguerite Marie à la Coque, comme vous le savez, nous sommes au XVIIe siècle, est une visitandine qui vit à la visitation de Paray-le-Monial, qui est bien connue depuis, et qui aura, de manière inattendue, des révélations du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus lui apparaissant, alors même qu'elle est en prière devant le Saint-Sacrement, et qui lui montre son cœur, l'organe de son cœur. Ça pourrait paraître un peu étonnant, mais c'est vrai que le cœur est quand même un vrai symbole qui est toujours utilisé aujourd'hui. Je pense par exemple à la Saint-Valentin, le 14 février, où le cœur est vraiment emblématique de cette fête des amoureux, n'est-ce pas ? On utilise le cœur très volontiers pour dire que l'on aime, c'est le siège de l'amour par excellence. Et au fond, Jésus est en avance sur son temps, et il utilise aussi, lui, ce symbole de son cœur pour essayer de révéler son amour. Et Sainte Marie reçoit cette révélation de l'amour du cœur du Christ, puisque Jésus, en lui montrant son cœur, lui dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes », ce que j'ai pris comme titre de cette lettre pastorale, et qui n'en reçoit pourtant qu'ingratitude, et en particulier de la part de ces cœurs qui lui sont consacrés. Et il ajoute aussitôt, dans ses diverses apparitions, « Veux-tu être mon ami ?» en substance. C'est-à-dire, « Veux-tu réparer d'une certaine manière cette ingratitude des hommes, et en particulier des consacrés, en me rendant, toi, amour pour amour, et en instituant, ou en demandant à l'Église d'instituer une fête pour marquer cette dévotion au Sacré-Cœur, une fête qui soit la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. C'est le vendredi, en effet, qui suit la fête du corps et du sang du Seigneur, qui elle-même suit la fête de la Pentecôte et de la Trinité. Voilà. Donc c'est très important de se rendre compte qu'une révélation purement privée a été prise au sérieux d'abord par son confesseur, qui était un jésuite tout à fait intellectuel, qui est Saint Claude de la Colombière, jésuite de Paray-le-Monial, et ce confesseur non seulement a aidé à l'authentification par l'Église de cette révélation privée, mais les papes ensuite ont décrété en effet une fête du Sacré-Cœur qui a d'abord été imposée pour la Pologne et la France qui en avaient fait la demande, et finalement pour l'Église universelle. Je crois que c'est le bienheureux Pie IX hein, qui a pris cette décision d'étendre à l'Église universelle cette fête du Sacré-Cœur de Jésus.
Alors, Monseigneur, vous avez évoqué quelques réticences qu'on peut avoir par rapport à ce genre de dévotion assez populaire, assez désuète. C'est vrai qu'est-ce que ce genre de dévotion a sa place aujourd'hui en France, où on est plutôt rationnel, on n'est pas en Amérique latine ici?
Alors justement, je pense que la dévotion populaire a toujours fait partie aussi de notre tempérament français. Hein, c'est vrai que nous pouvons avoir un tempérament, surtout depuis le siècle des Lumières, un peu idéaliste, rationaliste et, pour ne pas dire idéologue, et cérébral. Mais il reste que notre religion est la religion de l'incarnation et que Dieu s'est fait homme. Il a voulu épouser toute notre condition humaine avec toutes ses pesanteurs quotidiennes et que les saints eux-mêmes se sont sanctifiés avec leur chair, leur sang, leurs larmes, leurs sueurs. Et que tout cela fait partie aussi de notre vie, à la fois de notre bonheur et souvent de notre souffrance. Et Jésus assumait tout cela. Et d'une certaine manière, on va à la vérité avec toute son âme, comme disait Platon, mais je dirais qu'on va à la vérité avec sa chair aussi. Et je crois que cette dévotion populaire qui nous revient sans doute après des siècles de cérébralisation qui sont liés encore une fois chez nous au siècle des Lumières, par le biais du Nouveau Monde, de l'Amérique latine. Et je pense que l'opportunité d'avoir un pape qui vient de ce monde-là et qui est très dévotion populaire, on le voit à travers ses gestes de piété très simples qu'il utilise comme successeur de Pierre dans les grandes célébrations liturgiques qu'il préside avec grand concours de peuple. Eh bien, je pense que l'Amérique latine nous renvoie finalement à notre vraie dévotion chrétienne. Et elle pourrait, j'allais dire, cette grande vague de dévotion populaire qui caractérise en effet l'Amérique latine et que Benoît XVI appelait le trésor précieux de l'Église en Amérique latine, eh bien pourrait bien avoir le don d'irriguer de nouveau nos terres de vieille chrétienté qui sont, c'est vrai, un peu sèches et altérées.
Et donc on peut adorer une relique, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors il ne s'agit pas d'adorer une relique, hein, il s'agit de vénérer une relique. C'est un dogme de foi qui a été défini au cours de l'histoire de l'Église par un concile même. Hein. Vénérer les reliques des saints, donc comme vous savez, relique ça vient de reliquia, qui veut dire reste. Donc vénérer les restes d'un saint, à travers des ossements, ou qu'importe, généralement ce sont des ossements, ça peut être le cœur aussi d'un saint, comme le cœur du curé d'Ars par exemple, qui est vénéré à Ars, dans une chapelle dédiée, d'ailleurs près de l'église d'Ars, c'est se relier à un saint ou une sainte qui a vécu notre condition humaine en toute chose. Et c'est nous relier à travers ses restes à sa manière de se sanctifier avec tout ce qu'elle est, pour nous rejoindre aussi dans notre manière de nous sanctifier avec tout ce que nous sommes, et c'est rejoindre surtout son message dont elle continue de témoigner, parce qu'elle est toujours vivante, cette sainte, ou ce saint, aujourd'hui avec Dieu, dans son âme, glorifié, et qui continue de nous rejoindre avec son message. Et le message de sainte Marie à la Coque est très simple, c'est de tourner notre cœur vers le cœur du Christ. C'est de nous faire faire l'expérience de l'amour du Christ et répondre amour pour amour à cet amour dont nous sommes aimés gratuitement, quand bien même nous sommes parfois pécheurs et séparés de Dieu. Et je trouve que c'est magnifique parce que Sainte Marie de Marie, c'est accueillir son message et avec elle nous tourner vers le Christ pour, encore une fois, nous consacrer au cœur du Christ, c'est-à-dire faire de notre vie une réponse d'amour à l'amour de Dieu.
Alors cette consécration, vous en parlez depuis pas mal de temps, puisque déjà dans vos précédentes lettres pastorales, vous l'évoquiez. Dans la lettre que vous venez de publier, vous dites « Que de blessures de la charité fraternelle au sein de nos familles, de nos communautés, au sein même du presbytérium, que de jugements les uns sur les autres, que de reproches et de procès. Finalement, on peut se poser la question, notre diocèse serait-il en danger? Et est-ce que c'est pour ça que vous voulez consacrer notre diocèse au cœur de Jésus et de Marie ?»
Alors, je crois d'abord que au-delà de notre diocèse, nous vivons une époque qui connaît des menaces sur la dignité de la vie humaine. On le voit bien dans les évolutions sociétales que nous sommes en train de vivre en ce moment. On voit que la personne humaine est en danger dans le monde d'aujourd'hui, où l'on a évacué Dieu de notre horizon. Et quand l'homme a exclu Dieu de son horizon, et de son horizon social en particulier, eh bien, il est rattrapé par ses vieux démons. Et il est tenté de se mettre à la place de Dieu. Et de cette manière-là, il peut conduire à des formes de mépris de la dignité humaine que nous voyons sous nos yeux s'étaler aujourd'hui. Donc c'est vrai que le monde et notre pays est en danger. Notre nation, qui est la fille aînée de l'Église, qui doit sa culture précisément à l'annonce de l'Évangile, à la foi chrétienne qui est devenue culture et qui nous permet encore d'ailleurs de vivre et d'adhérer de manière très large, au-delà de nos frontières ecclésiales, à ces valeurs qui fondent la dignité de la personne humaine et que tout le monde a encore quand même à l'esprit, même si on ne l'a plus forcément en pratique, eh bien je crois qu'on est quand même en période de danger. L'Église est aussi en danger, pas seulement à travers ses blessures de la charité, je l'ai dit aussi parce que je crois en effet que approcher le cœur du Christ, c'est aussi demander une grâce de guérison pour ces multiples atteintes à la charité fraternelle qui peuvent en effet traverser nos communautés chrétiennes et même notre presbytérium au sein de notre diocèse qui constitue même un vrai contre-témoignage de l'évangile que nous avons annoncé à frais nouveau dans le monde qui a besoin d'entendre à nouveau cette première annonce de l'évangile. Mais il y a des menaces plus profondes sur la vie de notre Église qui se manifestent à travers la désaffection de nos assemblées, le vieillissement de notre clergé, la pénurie des vocations sacerdotales. Et je pense que face à ces menaces, sur la société comme sur l'Église, nous pouvons reprendre les grands moyens qui nous sont inspirés par la Bible dans ces périodes difficiles de l'histoire du peuple de Dieu, c'est vrai dans l'Ancien Testament, c'est vrai du peuple de l'Église à travers notre histoire multiséculaire. Eh bien, quand on ne trouve plus en soi-même les ressources d'un redressement, d'une espérance, d'un salut, eh bien on se tourne vers le Seigneur avec plus de confiance et on implore un peu plus sa pitié et on fait une démarche commune de retour au Seigneur, de conversion, de consécration de soi-même, dans la ligne d'ailleurs de sa consécration baptismale. Hein, on implore son aide, hein, non pas dans un grand cri d'espérance, non pas dans un cri de défaitisme. Nous ne sommes pas pour autant du côté des prophètes de malheur, hein, dans le monde d'aujourd'hui. Au contraire, nous faisons confiance davantage au Seigneur et nous lui demandons son aide. Les psaumes sont remplis de ces cris de supplication qui appellent le Seigneur à notre aide.
Alors concrètement, en deux mots, comment va se passer cet accueil des reliques dans les paroisses?
Alors donc, les paroisses, les communautés religieuses, les aumôneries, les maisons de retraite, j'espère même les maisons d'arrêt, sont invités à demander la visite des reliques de Sainte Marie de Marie-à-la-Coque. Et donc déjà, nous sommes en train d'organiser cela par des coups de fil, par des appels des uns et des autres. Et le calendrier qui va s'étendre depuis le 20 mars jusqu'au 8 juin, c'est-à-dire jusqu'à la fête de la Pentecôte, où nous procéderons à cette consécration solennelle, eh bien, est en train de se remplir. Voilà.
Et la visite commencera le 25 mars à la cathédrale de Bayonne de 20h30 à 21h30.
Voilà.
Radio Lapourdi Iratia 96.8 à Bayonne. Nouvelle fréquence à Saint-Palais 96.9. Nouvelle fréquence à Saint-Jean-Pied-de-Port 106.9. Nous retrouvons notre évêque, Mgr Marc Caillé. Alors, vous avez promulgué récemment les nouveaux statuts de l'enseignement catholique. Alors, quels sont ces statuts? Quel est leur contenu?
Alors, on en a déjà beaucoup parlé, n'est-ce pas, hein, puisque, comme vous le savez, ces statuts qui ont été travaillés pendant 3 ans à la demande des évêques, en partenariat avec toutes les réalités engagées dans l'enseignement catholique, sous la houlette du secrétaire général de l'enseignement catholique, ont été adopté par les évêques de France en assemblée plénière, c'était en avril dernier à Paris, et publié le 6 juin 2013, et remis ainsi aux différents directeurs diocésains qui étaient rassemblés pour des assises de l'enseignement catholique, et enfin promulgué par moi-même dans le diocèse le 29 janvier dernier. Car comme je l'avais déjà expliqué, pour avoir force de loi dans le diocèse, il faut que ces statuts soient promulgués par l'évêque diocésain. Avec quelques amendements possibles ou quelques précisions de certains paragraphes de ces statuts qui appelaient des précisions selon les diocèses. Ce que nous avons fait avec le conseil de tutelle, essentiellement pour le rôle du prêtre envoyé en mission auprès d'un établissement d'enseignement catholique dans notre diocèse. Quel est le contenu? C'est très long de vous le dire. Il est en plusieurs parties. Je crois que ce qui est important de souligner, c'est que ce statut d'enseignement catholique part des personnes qui sont les acteurs de l'enseignement catholique, que ce soit le directeur diocésain, le chef d'établissement, le comité diocésain d'enseignement catholique, qu'on appelle le CODIEC, les enseignants, donc la communauté éducative au sens large, les organismes de gestion d'enseignement catholique, qu'on appelle plus communément les OGEC, et ce sont de parents d'élèves, etc., etc. Resitué surtout dans la mission ecclésiale qui est donnée aux établissements d'enseignement catholique par l'évêque. Voyez, je crois que ce qui est très important, c'est que on a resitué cette mission de l'enseignement catholique par rapport à la mission de l'Église. Au fond, c'est une manière de mieux comprendre que le chef d'établissement, chef d'établissement dans l'enseignement catholique n'est pas seulement responsable pédagogique, administratif de son établissement, mais il est d'abord, il reçoit d'abord une mission pastorale de l'Église. C'est resituer cette mission éducative dans la mission de l'Église. Je crois que c'est ça qui est pas la grande nouveauté, mais en tout cas la précision qui est apportée par ces nouveaux statuts de l'enseignement catholique.
Alors justement, récemment, il y a eu un sujet très concret qui peut être illustré ces nouveaux statuts, c'est l'arrivée de la théorie du genre dont vous avez parlé tout à l'heure. Tout récemment, Pascal Balmont, le secrétaire général de l'enseignement catholique, s'est exprimé sur le sujet. Il a dit qu'il ne refusait tout recours idéologique à une théorie du genre. Est-ce que vous partagez cette mise en garde envers les écoles de l'enseignement catholique et est-ce que la théorie du genre arrive également dans l'enseignement privé?
Alors, comme vous le savez, c'est très compliqué parce qu'il y a eu en effet toute une polémique dont on avait déjà parlé le mois dernier autour de cette théorie du genre. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Vincent Peillon, a même été jusqu'à dire que cette théorie n'existait pas, alors que nous avons toutes les preuves audiovisuelles et écrites de ses nombreuses déclarations sur l'importance de cette théorie du genre, de cette déconstruction des stéréotypes du genre, comme on le dit habituellement, en particulier dans l'école, au nom de l'égalité, comme toujours, entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes. C'est vrai que si on joue sur les mots, c'est évident qu'on n'enseigne pas ex professo la théorie du genre. Mais cette théorie, qu'on peut même appeler une idéologie du genre, elle entre subrepticement dans les programmes scolaires, au nom de l'éducation nationale, par la mise en œuvre de cette théorie, à travers en particulier des expériences de déconstruction des stéréotypes de genre. Et notre académie de Bordeaux étant l'une des 10 académies pilotes en la matière. Voyez. Malheureusement, il est fort probable que des enseignants, SVT en particulier, ou des chefs d'établissement parfois, pas suffisamment informés ou alertés sur les tenants et les aboutissants de cette théorie et sur les manières dont elle entre subrepticement dans les programmes, pourraient leur laisser une place, comme on l'a vu à travers le visionnement de certains films qui ne sont pas sans lien avec cette idéologie du genre. Bon. Et c'est pourquoi je crois que M. Pascal Balmont, qui est le nouveau secrétaire général de l'Assemblée catholique, s'est fendu d'un éditorial le 1er septembre 2013 pour alerter et mettre en garde contre ce recours idéologique à une théorie du genre, en rappelant que, sous prétexte qu'on veut parler de l'égalité entre l'homme et la femme, nous ne parlons pas proprement parlé de l'égalité. Au sens de la dignité de la personne humaine, il y a une égalité de dignité entre l'homme et la femme. C'est même la nouveauté absolue de l'anthropologie judéo-chrétienne, de la révélation judéo-chrétienne contre le paganisme qui établit de très fortes inégalités entre l'homme et la femme. Donc nous n'allons pas renier, nous, au contraire, cette égalité de dignité. Mais vous comprenez bien que ce combat aujourd'hui qui est mené avec, en filigrane, cette idéologie du genre, par les programmes d'éducation nationale ou autres en France, qui concerne sur l'égalité ou la parité entre l'homme et la femme, est un combat piégé. Car en termes d'égalité, il s'agit petit à petit de parler d'indifférenciation entre l'homme et la femme, ce que nous ne pouvons pas accepter. Nous parlons d'une égalité de dignité dans l'altérité entre l'homme et la femme, et donc dans la complémentarité entre l'homme et la femme, qui enrichit la vie sociale. Ce qui enrichit précisément la vie sociale, c'est cette complémentarité entre l'homme et la femme qui ont des spécificités. Voyez. Donc je crois que nous avons, nous, une anthropologie qui est très profonde, qui a fait ses preuves à travers l'histoire même de l'humanité, qui est entrée même dans la sagesse de l'expérience humaine, que nous devons défendre et enseigner, et ne pas nous laisser piéger par de faux combats sur l'égalité entre l'homme et la femme, qui sont petit à petit l'entrée dans une indifférenciation qui est précisément la tête de pont de l'idéologie du genre.
Alors à ce sujet, il y a eu une polémique récente sur le fait que la Conférence des évêques de France invite une personne qui a étudié ces théories du genre, donc Fabienne Brugère. Que pensez-vous de cette polémique? Est-ce que vous pensez que les évêques ont bien fait de l'inviter et finalement ça a été annulé?
Alors, d'abord, ce ne sont pas les évêques qui l'ont invité. Comme vous savez, c'est le service famille et société de la Conférence des évêques de France, sous l'égide en effet d'une commission épiscopale et donc d'un président qui est Mgr Jean-Luc Brunin, qui avait, à mon avis, avec un peu d'imprudence, invité une universitaire, donc là-dessus il n'y a rien à dire, dans le cadre du dialogue entre l'Église et la société. On peut en effet imaginer des instances où l'on dialogue effectivement avec des universitaires qui rendent compte de leurs travaux philosophiques, et en effet, elle est reconnue dans les milieux universitaires profanes, en tout cas laïques, en France, comme une spécialiste de la question du « care », comme on dit en anglais, c'est-à-dire du « prendre soin ». Et c'était le thème qui était proposé par la commission épiscopale Famille et Société pour cette rencontre annuelle des délégués du sein de la personne familiale. Ce qui a un peu parasité les choses, c'est que cette universitaire est aussi une militante, et une militante idéologique, qui fait campagne pour les élections municipales, qui est comme partie prenante de la liste socialiste à Bordeaux, qui, de fait, est une adepte de Judith Butler, qu'elle appelle la plus grande philosophe du XXIe siècle, et qui est justement l'idéologue par excellence de cette théorie du genre qui conduit à l'indifférenciation sexuelle au nom du féminisme. Donc c'est aussi une militante politique et idéologique du féminisme. Elle ne se cache pas de manifester à Bordeaux avec l'association Oser le féminisme, donc association d'extrême gauche, s'il en est, pour défendre le droit à l'IVG au nom de l'égalité de l'homme et de la femme. Donc c'est ça que je crois parasiter cette invitation. Si on invite une universitaire qui ne pense pas comme nous, c'est très bien pour dialoguer, à condition bien sûr que nous dialoguons à partir de notre foi, comme le dit le pape François en reprenant une très belle leçon sur le dialogue qu'avait donné Benoît XVI devant la Curie romaine en décembre 2012, et à condition que nous soyons bien clairs dans nos convictions, qui naissent de l'Évangile et de l'enseignement de l'Église sur la question du prendre soin. Bon, mais comment voulez-vous disserter sur le prendre soin de manière philosophique quand on est militant de l'IVG, du gender et du féminisme? C'est un petit peu court quand même. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est sage que, à la demande des évêques, même s'il y a aussi une agitation des réseaux sociaux, mais ça, moi, ça ne me regarde pas. J'ai fait partie d'un ensemble d'évêques qui ont alerté la Commission épiscopale Famille et Société sur cette incongruité de l'intervention d'une militante. Dialoguer avec une universitaire, c'est une chose. Dialoguer avec une militante sur l'action du prendre soin, c'est un peu pipé d'avance.
Le service diocésain de la pastorale familiale avait invité Anne Couffigny, qui est donc responsable de la Fondation pour l'école dans notre diocèse. Elle a donné deux conférences, une à Bayonne et une à Pau. Alors que pensez-vous de l'implantation des nouvelles écoles hors contrat, notamment dans ces deux grandes villes?
Alors moi, comme je m'en suis ouvert déjà dans la première lettre pastorale que j'ai écrite, La charité du Christ nous presse, à propos de l'enseignement catholique, j'ai dit que le principe de la liberté de choix des parents pour l'école de leurs enfants doit être maintenu envers et contre tout. C'est ce qui fonde d'ailleurs l'existence de l'enseignement catholique et du service qu'il peut rendre face à l'enseignement public. On peut très bien comprendre que des familles, pour la transmission du savoir comme la transmission de la foi à leurs enfants, ou des valeurs qui leur sont chères, puisque ce sont eux les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, décident de prendre l'initiative de fonder une école hors contrat. De toute façon, dès lors que l'on fonde une école en France, elle est nécessairement hors contrat, au moins pendant 5 ans, quitte à ce qu'elle devienne sous contrat au bout de 5 ans, par la demande qui en serait faite. Moi, je n'ai pas l'initiative d'une école hors contrat, c'est évident. Mais j'accompagne ces familles, comme les autres, qui voudraient fonder une école hors contrat dans le diocèse. Je pense que dans le diocèse, la pluralité des familles, dans le choix éducatif de leurs enfants, peut permettre la place aussi des écoles hors contrat, à côté des écoles publiques, dans lesquelles beaucoup de familles catholiques mettent leurs enfants, et à côté de l'enseignement catholique sous contrat. Je pense que ça peut créer une pluralité qui peut être aussi une émulation, et en tout cas, qui est le strict respect de la liberté des enfants par rapport au choix de l'école des parents.
Et
par rapport au choix
le service diocésain de la pastorale familiale est dans son rôle en promouvant finalement les écoles hors contrat.
Alors, il ne promeut pas l'école hors contrat parce qu'il invite une personne tout à fait reconnue, y compris par l'enseignement catholique national, qui a fondé une fondation pour l'école, qui est venue nous parler de l'urgence éducative aujourd'hui, et d'ailleurs qui a parlé de manière très équilibrée de l'école hors contrat, de l'école sous contrat et de l'école publique, sans d'ailleurs les renvoyer dos à dos, en montrant seulement que chacune a ses grâces et chacune a ses limites, et en répondant aux objections qui sont faites régulièrement aux écoles hors contrat, pour bien montrer que il n'y a pas de complexe à avoir à défendre l'école hors contrat. La pastorale familiale, en effet, écoute les demandes des familles. Si elle sait qu'il y a des familles catholiques qui désirent fonder une école hors contrat, c'est l'occasion d'apporter une information sur... de leur proposer une information.
Ce n'est donc pas un désaveu de l'enseignement catholique, comme
certains
pas. Ont pu le craindre.
Mais pas du tout. Mais moi, je suis le responsable de l'enseignement catholique diocésain, mais j'accompagne toutes les familles, et je ne désavoue pas non plus les familles qui mettent leurs enfants à l'école publique. Elles font partie aussi des fidèles dont j'ai la charge pastorale.
Ni donc dans les Écachetolas.
Et ni dans les Écachetolas, qui sont des écoles privées. Hors contrat ou sous contrat, ça dépend des cas de figure. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, à propos des Écachetolas, j'ai demandé que on puisse les approcher un peu plus pour proposer de manière plus habituelle qu'il y ait une présence d'Église aussi dans les Écachetolas, dans la mesure où ils le désirent et l'acceptent.
Un mot rapide, Monseigneur, puisque nous parlons des jeunes, sur les prochaines propositions qui sont proposées par la pastorale des jeunes de notre diocèse. Une journée pour les 4e, 3e, une journée pour les plus grands.
Voilà, donc chaque année, on a ces propositions qui sont faites par la pastorale des jeunes. Et je me réjouis chaque année de pouvoir y participer. Les 4e, 3e, ce sera le samedi 5 avril, à partir de 11h30, je crois, à Salis de Béarn. Et pour ce qui est des lycéens et étudiants et même jeunes professionnels, donc dans le cadre des JMJ qui se font chaque année au Rameau, hein, c'était la décision de Jean-Paul II, qui auront lieu cette année, donc à Bayonne, entre le Collège L'Argenté qui nous accueille et la cathédrale où nous célébrerons la messe anticipée des Rameaux avec les jeunes après une petite procession des Rameaux qui se fera depuis la place de la Porte d'Espagne jusqu'à la cathédrale. Donc des grands moments pour le diocèse et des grands moments pour moi.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port. Monseigneur Marc Caillé, le 16 mars, c'était le lancement de la campagne du denier de l'Église. C'est quelque chose aussi d'habituel. Alors, pouvez-vous nous dire d'abord la campagne 2013, est-ce qu'elle a bien marché? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que l'Église diocésaine est contente des dons qu'elle a reçus des fidèles?
Ben, écoutez, oui, c'est vrai, parce qu'en période de crise économique, on pouvait avoir des inquiétudes sur l'évolution du denier de l'Église. Et d'autant plus qu'il ne se répartit jamais très bien dans l'année. Et finalement, c'est toujours un peu dans les derniers mois de la campagne que les dons abondent. Mais nous sommes satisfaits dans la mesure où on n'a pas enregistré de baisse et qu'on a stabilisé le denier par rapport à 2012 avec un montant à peu près égal à 2 900 000 euros. Donc c'est bien. Le nombre des donateurs a même augmenté. Il y a 4000 donateurs de plus, 4000 nouveaux donateurs qui sans doute ne suffisent pas complètement à compenser la perte des donateurs par décès ou qui sont au bout de la chaîne évidemment, mais n'empêche que c'est bien de pouvoir dire que nous avons un nouvel élan de donateurs en 2013. Et le don moyen qui oscille toujours entre 137 ou 138 euros, qui n'a pas baissé non plus par rapport à l'habitude. Donc je crois qu'on peut être satisfait de cette stabilisation, même si je pense qu'il faut viser une augmentation du denier de l'Église, étant donné l'augmentation de nos charges.
Par rapport aux autres diocèses, on se situe dans une bonne moyenne? Ou est-ce que vous considérez que notre diocèse est riche, moyennement riche, pauvre? Comment vous définiriez-vous?
Alors tout dépend d'où on part. C'est sûr que dans notre diocèse, on part d'assez haut par rapport à beaucoup d'autres diocèses. Parce qu'il y a une tradition chrétienne ici, il y a une tradition de la générosité pour l'Église qui ne se dément pas et qui fait quand même qu'on est toujours, à des niveaux assez élevés par rapport à beaucoup de diocèses. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours très comparable. Même si je crois que la rencontre des économes diocésains qui a eu lieu à Lyon ces derniers jours aboutit à la conclusion que il y a une légère hausse de 1% sur l'ensemble des diocèses de France. Ce qui veut dire qu'il y a des diocèses qui ont peut-être pas mal augmenté, qui compensent les diocèses qui sont en régression. Les diocèses proches de notre diocèse sont plutôt en diminution. Donc voilà. Donc je pense que nous, on est dans la stabilisation, donc merci mon Dieu.
Et merci aux donateurs.
Et merci aux donateurs surtout, oui, qui demeurent très généreux. Et encore une fois, il y a vraiment une culture de la générosité pour l'Église dans le diocèse de Bayonne-Lescarolleron.
Alors il est toujours important de le rappeler pédagogiquement, que les gens sachent à quoi sert l'argent qu'ils vont donner, à quoi sert le denier.
Et voilà, donc comme on le répète toujours, et ça n'est pas encore toujours entendu, l'Église ne bénéficie d'aucune subvention, ni de l'État, évidemment depuis la séparation des Églises et de l'État en 1905, ni du Vatican. Comme je le dis chaque année, c'est plutôt le Vatican qui bénéficie de nos collectes. Nous sommes appelés à contribution pour aider au fonctionnement de l'Église universelle, et en particulier pour aider tous les projets de développement et d'aide caritative aux églises plus pauvres, hein, selon une solidarité entre les églises qui est évidemment tout à fait inscrite dans la mentalité évangélique.
Quel est le pourcentage qui va au Vatican ?
C'est pas en termes de pourcentage,
c'est
car
ce
sont des quêtes.
C'est le denier de Saint-Pierre.
C'est le denier de Saint-Pierre. Donc ce sont des quêtes qui sont faites et donc où les fidèles sont mis à contribution et qui passent évidemment par le diocèse pour être ensuite transférés au Saint-Siège. D'accord. Alors à quoi sert le denier, une fois qu'on a dit ça, puisque nous ne dépendons que de la générosité des fidèles, puisque nous ne dépendons d'aucune subvention? Eh bien le denier sert premièrement, prioritairement, au traitement des prêtres, à leur couverture sociale, à leur retraite, pour laquelle nous cotisons, hein, pour chacun des prêtres.
Un prêtre gagne combien ?
Alors, on ne peut pas dire qu'il gagne. Un prêtre reçoit du denier de l'Église 500 euros par mois, auquel on peut rajouter ce qui ne vient pas du denier de l'Église, par contre, mais les honoraires de messe, qui sont évidemment distincts du denier de l'Église, et une partie du casuel, qui sont aussi distinctes du denier de l'Église et qui sont les revenus des paroisses.
Ça fait combien, ça ?
Parce que, finalement... Ça veut dire, si on dit 500 euros de traitement qui vient du denier de l'Église, à peu près 450 euros, un petit peu plus, d'honoraires de messe, le casuel, c'est 40% du casuel, mais comme c'est réparti selon une péréquation entre les prêtres par doyenné, je ne pourrais pas vous dire ce que ça peut donner, parce que là, il y aura une différence de traitement selon les doyennés et selon les actes de culte qui ont été accomplis.
Un prêtre est finalement en dessous du seuil de pauvreté ?
Disons qu'un prêtre est juste en dessous du SMIG. Mais ceci dit, il faut quand même dire que, rappeler que les prêtres sont logés par les paroisses, hein, dans les presbytères, qu'ils soient communaux, qu'ils soient paroissiaux, ce sont les paroisses qui assument les charges, hein, de location, d'électricité, d'eau, de téléphone. Donc vous voyez que le prêtre a pour vivre, pour sa nourriture, pour sa voiture, pour son habillement, pour ses loisirs, pour les frais qu'il peut avoir aussi à côté de son ministère, eh bien, il a quand même une somme qui est tout à fait raisonnable.
Et un évêque ?
Pas plus que les prêtres, nous sommes logés à la même enseigne. Moi, je n'ai pas le casuel, donc il y a une compensation qui me donnait par forfait. Mais autrement, je reçois la même chose que les prêtres. Et quand je demande des intentions de messe, ben, je reçois aussi des intentions de messe.
Alors arrêtons-nous peut-être justement sur ce terme de casuel, parce que pour le commun des mortels, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement
alors,
ce que
casuel, c'est ? Alors casuel, ça vient d'un mot latin, hein, qui veut dire à l'occasion de. Hein, ça veut dire que à l'occasion d'un sacrement, par exemple le mariage, par exemple le baptême, d'un autre acte de culte qui n'est pas un sacrement mais les obsèques, eh bien les fidèles sont appelés à participer aux frais du culte. Et donc c'est fixé à titre indicatif par les évêques réunis en province ecclésiastique pour le mariage et les funérailles. Par contre, c'est libre pour le baptême. Ce casuel qui doit normalement couvrir les frais du culte est déversé dans une caisse de doyenné et ensuite réparti de la manière suivante. 40% vont dans la paroisse, 40% au prêtre et 20% au diocèse. C'est la seule contribution des paroisses au diocèse que c'est 20% du casuel.
Alors les messes, elles ont augmenté au 1er janvier. Ça faisait quand même un moment que ça n'avait pas augmenté. Donc maintenant, une messe vaut, entre guillemets, 17 euros. Pourtant, une messe n'a pas de prix.
Une messe n'a pas de prix. Donc à titre indicatif, là aussi, alors là c'est déterminé par la Conférence des évêques de France, réunie en assemblée plénière. Et donc, au 1er janvier, il y a une petite augmentation d'un euro pour fixer, à titre indicatif bien entendu, l'honoraire de messe, qui n'avait pas été changé depuis 2008. Voilà, qui était à 16 euros depuis 2008.
Donc cet argent, il va où ?
Alors ça, c'est le prêtre. Chaque prêtre a droit à un honoraire de messe par jour, à condition bien sûr de célébrer la messe. aux intentions qui lui sont données par les fidèles. C'est très important, je le répète ici, de faire célébrer des messes, en particulier pour nos défunts, et participer à cette offrande qui demande beaucoup plus qui a beaucoup plus de valeur que ce que 17 euros, bien entendu, mais c'est une manière de participer aussi à cette offrande et aux frais du culte et à l'entretien du prêtre qui célèbre la messe.
Les quêtes, pouvez-vous nous expliquer où ça va ?
Les quêtes vont intégralement dans la paroisse.
Mais il y a des quêtes, ce qu'on appelle les quêtes impérées.
Alors, il y a des quêtes impérées pour des affectations particulières qui concernent l'Église universelle, comme les lieux saints ou le denier de Saint-Pierre, qui concernent l'Église de France, comme l'enseignement catholique, la communication, etc., ou qui concernent notre diocèse, hein, comme la pastorale des jeunes, etc. Bon. Les prêtres âgés. Bon. Tout ça, les quêtes impérées sont reversées au diocèse, qui les répartit pour les postes auxquels ils ont été affectés, et sur lesquels les fidèles doivent être informés, évidemment, par leur curé. Toutes les autres quêtes dominicales, ou de messe quelconque, d'occasion quelconque, vont à la paroisse. J'ai omis quelque chose tout à l'heure, quand vous m'avez demandé à quoi sert le denier. J'ai parlé du traitement des prêtres, mais je dois ajouter aussi, ce qui augmente forcément dans la professionnalisation à laquelle nous sommes soumis aujourd'hui dans nos différents actes d'administration, de gestion, etc., que le denier de l'Église sert aussi au salaire de tous les laïcs en mission ecclésiale ou des laïcs qui sont salariés par le diocèse.
Alors les laïcs en mission ecclésiale, vous pouvez juste nous expliquer ce qu'ils font
Alors les laïcs en mission ecclésiale, ce sont ceux qui reçoivent, comme son nom l'indique, une mission ecclésiale qui participe donc à la mission pastorale de l'évêque et des prêtres. Par exemple, le responsable de la catéchèse, le responsable de la salle familiale, le responsable de l'aumônerie de lancement public, etc., etc. Mais il y a aussi tous les salariés qui participent, là pour le coup, à des tâches administratives, à des tâches de gestion, à des tâches de communication. Ce sont les salariés de la communication, ce sont les salariés de l'économat, ce sont les salariés de l'immobilier, du secrétariat, etc. Donc il est évident que le denier de l'Église, aujourd'hui, sert non seulement au traitement des prêtres, mais aussi au salaire des laïcs engagés dans nos structures ecclésiales.
Il y a aussi d'autres frais. Parfois, dans le camembert, on voit prêtres, laïcs et puis autres frères.
Alors si le denier de l'Église est assez conséquent, il peut permettre aussi de financer d'autres missions dans l'Église. Hein. Aujourd'hui, il sert tout juste à couvrir le traitement des prêtres, je pense aussi la formation des séminaristes et les salaires des employés de la structure.
Cette année, quel est le thème de la campagne ? Bonne nouvelle ?
Alors, on surfe toujours un peu sur bonne nouvelle, n'en déplaise à certains, parce que visiblement, ça passe bien, quand même pour l'ensemble. Donc cette année, c'est un slogan tout simple qui est « Votre vie est ici, bonne nouvelle,
l'Église aussi ».
La proximité donc.
Voilà. Donc on a joué en effet sur la proximité. On était parti, vous vous rappelez, de ces grands 4-3 où on voyait l'évêque, mais aussi d'autres personnes, qui personnellement annonçaient une bonne nouvelle. Et c'est vrai que l'Église sert à financer les missionnaires de cette bonne nouvelle, les acteurs de cette bonne nouvelle, à travers la mission de l'Église. L'année suivante, c'était un prêtre qui était mis en valeur dans les visuels. Et cette année, c'est un fidèle laïc près de chez soi. Et on a essayé de recentrer la campagne sur le terrain local de nos paroisses, en mettant encore plus en valeur ce que font toujours les équipes paroissiales du denier de l'Église.
Tous les renseignements sur cette campagne du denier de l'Église sur le site internet www.bonnenouvelle64.fr.
Radio Lapourdi Iratia, votre radio chrétienne en Pays Basque. 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Hayet, nous terminons cet entretien du mois de mars avec le retour sur les événements qui ont marqué notre diocèse.
Alors l'Église a fêté le 13 mars le premier anniversaire de l'accession au pontificat du pape François. Alors vous, tout simplement, un an après, quel bilan vous faites ?
Alors moi, je ne serais pas mal placé pour faire un bilan. Hein, c'est pas à moi de faire le bilan du pontificat de François comme de n'importe quel successeur de Pierre. Hein, je ne m'y hasarderai pas. Mais cependant, je peux dire qu'au bout d'un an, on est tous frappés par cette cote de popularité qui ne se dément pas et qui est toujours en croissance, bien au-delà de nos frontières, puisque les médias continuent visiblement de chouchouter notre pape François. C'est à croire d'ailleurs, si je puis me permettre, qu'on n'écoute pas forcément le chanteur et qu'on n'écoute pas forcément la chanson, plus exactement, parce qu'il a aussi des paroles extrêmement percutantes, extrêmement fortes, sur toutes les questions possibles imaginables de la vie de l'Église, auxquelles on est plus attentif, bien entendu, mais et souvent, surtout quand on est à l'extérieur, mais aussi sur la vie du monde et de la société, sur les évolutions sociétales, qui feraient bien d'être entendues avec un peu plus d'attention. Mais cependant, moi je me réjouis de cette grande vague de popularité dont notre pape François jouit actuellement dans l'opinion publique. Pourquoi ? Parce qu'au fond, après Jean-Paul II, après Benoît XVI, certainement pas en opposition à eux, parce qu'on voit bien que dans son enseignement, il intègre l'enseignement de ses prédécesseurs. Je suis frappé quand je lis l'exhortation apostolique avec un peu d'attention, la joie de l'Évangile, qu'il y a des pans entiers de son exhortation qui sont des reprises textuelles, sans les citer, de ses prédécesseurs, en particulier de Benoît XVI. Je pense par exemple à sa leçon sur le dialogue, etc. Bon. Mais je me réjouis de ça parce que je crois qu'à la suite des deux premiers, ce pape, son charisme, si je puis dire, sa spécificité, c'est d'être vraiment le pape de la première annonce. À travers cette proximité qu'il a avec tous, la simplicité des gestes d'attention aux moindres et aux plus petits, et de piété même, hein, pour revenir à la piété populaire dont nous avons déjà parlé dans cette émission, eh bien, je pense qu'il est vraiment le pape qui peut rejoindre ceux qui sont un peu plus éloignés, ceux qui sont loin, ceux qui parfois croient avoir la foi mais n'en vivent pas vraiment ou de manière très superficielle, parce que il a, à travers son langage, son discours et ses gestes, eh bien, il va au cœur de l'Évangile et il essaie de dire ce qui peut être le plus accessible à ceux qui se sont éloignés ou ceux qui sont loin. Donc, je crois que c'est vraiment le pape de cette fameuse nouvelle évangélisation qui a été promue par Jean-Paul II. Et par Benoît XVI à sa suite.
Alors revenons sur un événement qui a marqué notre diocèse récemment pour la Saint-Léon, c'était la venue du nonce apostolique. Pourquoi avoir pensé à inviter le nonce apostolique ? Quel était le symbole pour notre diocèse ?
Alors je crois que c'est parce qu'à Saint-Léon, nous invitons toujours une personnalité ecclésiastique, un prélat de renom. Nous avons eu le cardinal Sarah, nous avons eu le cardinal Ricard, et j'ai pensé que le nonce apostolique, au fond, qui est le représentant du Saint-Père en France, non seulement auprès de l'État comme son ambassadeur, mais aussi auprès de l'Église de France, j'ai pensé que c'était pas mal qu'il puisse avoir des occasions comme ça de venir sur le terrain et d'aller à la rencontre des églises particulières, un peu plus qu'il ne le fait, sauf sur invitation, voyez, ou pour des cérémonies officielles, comme l'installation ou l'ordination d'un nouvel évêque. Et c'est pourquoi j'ai pensé à lui. C'était aussi l'occasion, peut-être, parce que nous venions de rencontrer le pape François avec les séminaristes, c'était l'occasion finalement de prolonger cette présence du pape dans notre diocèse à travers son représentant. D'ailleurs, il a beaucoup insisté là-dessus au début de son homélie en tant que nonce apostolique. Et je crois que c'est un beau symbole qui veut dire aussi notre attachement au Saint-Père, au siège de Pierre et notre communion donc affective et effective avec le successeur de Pierre.
Vous vous êtes rendu à Rome avec les séminaristes pour un pèlerinage. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment où les jeunes notamment ont servi la messe du Saint-Père ?
Voilà, je crois que c'est très important ce genre de pèlerinage à Rome parce que c'est inviter ces séminaristes, futurs prêtres si Dieu veut, à s'immerger dans l'Église universelle. Par le contact que nous avons à l'occasion de ce pèlerinage avec le pape d'abord, successeur de Pierre, tant à travers l'audience générale du mercredi à laquelle nous avons participé, ils ont participé de près d'ailleurs parce qu'ils étaient à quelques encablures du Saint-Père, là sur le Sagrado, hein, dans des places un peu privilégiées, et aussi parce qu'ils ont eu la grâce et l'honneur d'assurer le service liturgique de la célébration du consistoire le 22 février dans la basilique Saint-Pierre. Donc c'est une manière pour eux, eh bien, non seulement de s'immerger dans le cœur de l'Église universelle et de vibrer un peu au diapason des préoccupations de l'Église universelle au-delà des frontières forcément plus étroites de l'Église particulière qu'ils s'apprêtent quant à eux à servir, mais qui n'est que la présence ici et maintenant de l'Église universelle, n'est-ce pas ? Mais c'est aussi l'occasion bien d'avoir ce lien physique, je dirais, avec le successeur de Pierre. Alors, c'est pas anodin hein, d'assurer le service liturgique d'une célébration présidée par le pape. C'est aussi bien entrer dans cette relation filiale, très charnelle, je dirais, hein, très affective avec le pape.
On retourne dans notre diocèse avec le 9 mars dernier, une étape importante pour les catéchumènes de notre diocèse, l'appel décisif, donc une cérémonie, une célébration que vous avez présidée. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que cet appel décisif ?
Alors c'est une célébration très émouvante, avec cette année pour nous 28 catéchumènes qui vont être baptisés, confirmés, communiés pour la première fois lors de la vigile pascale dans leur paroisse. Et nous en aurons d'ailleurs deux ou trois, je crois, à la cathédrale au cours de la vigile pascale que je présiderai moi-même. Donc c'est très émouvant parce que ces catéchumènes viennent de tous les horizons, 28 plutôt jeunes, moyenne d'âge, je crois que ça allait de 17 à 58 ou 59 ans, vous voyez, c'est quand même assez jeune, qui viennent souvent de milieux qui ont pu être chrétiens mais qui pour beaucoup ne l'étaient pas, qui ont connu des itinéraires souvent chaotiques, qui ont pu être même abîmés et blessés par la vie dans leur histoire, et qui, à l'occasion peut-être de rencontres avec des fidèles de l'Église catholique ou des événements plus marquants de leur existence, eh bien, ont fait cette rencontre avec le Christ. Et alors, ils mordent à pleines dents dans l'Évangile et dans la vie de l'Église, sans aucun préjugé, n'ayant aucun compte à régler. Moi, je suis très heureux parce que c'est l'occasion pour moi de les rencontrer personnellement, donc avant les appels décisifs, au cours d'une récollection organisée par le catéchumènat diocésain à Belloc. Et cette rencontre, elle est très belle. Eux sont très heureux de rencontrer l'évêque. Moi, je suis très heureux. Je contemple l'œuvre de Dieu dans ces âmes qui s'ouvrent à la rencontre avec le Christ et à la grâce de Dieu, quoi. Et bon, l'appel décisif, c'est très important. Le premier jour du carême, ça vient de l'Église ancienne. C'est le moment où les catéchumènes ne sont plus des catéchumènes. Après ce temps de formation, on les appellera désormais des élus ou des appelés, parce que Dieu manifeste de manière officielle et tangible à travers un rite hein, qui nous vient de l'Antiquité chrétienne, présidé par l'évêque. Eh bien, Dieu manifeste qu'il les appelle désormais de manière officielle et solennelle à recevoir les trois sacrements de l'initiation chrétienne.
Ils en sont presque à 2 ans de préparation. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop long pour
certains ? Alors c'est variable. Hein. Ça peut être 3 ans, ça peut être même un petit peu moins. Il y en a certains qui ont brûlé les étapes. Je crois que c'est au cas par cas, il n'y a pas de système. On demande seulement qu'il y ait quand même un temps de préparation pour... Pourquoi ? Ben pour s'assurer que, d'abord que le catéchumène lui-même s'assure qu'il a bien compris ce à quoi cela l'engage, hein, de s'unir au Christ par la grâce du baptême et de vivre de l'Évangile hein, et des valeurs de l'Évangile. Donc ça suppose une certaine capacité d'ajustement à ces valeurs de l'Évangile en sachant que c'est la grâce du baptême qui leur permettra effectivement de s'ajuster aux valeurs de l'Évangile, donc de fréquenter la parole de Dieu, de fréquenter la communauté chrétienne à travers une équipe d'accompagnement en particulier, de fréquenter les valeurs de l'Évangile, de s'essayer à les mettre en œuvre dans leur vie. Et quand on a à peu près discerné cela de manière mutuelle, à la fois eux et l'Église qui les accompagne, eh bien on peut les appeler de manière décisive à recevoir la grâce qui les introduira dans la vie de Dieu et dans l'Église.
Monseigneur, ayez un mot sur les étapes, les temps forts qui jalonnent la préparation des jeunes qui se destinent au sacerdoce. Y aura-t-il par exemple une ordination sacerdotale cette année dans notre diocèse ?
Alors, je pense qu'il n'y aura pas d'ordination sacerdotale cette année, mais il y aura l'institution de deux lecteurs. Ça aura lieu d'ailleurs à Cambeau, qui est la paroisse de leur insertion pastorale, Paul Dean Van Wan et Sanche de Françu, qui Sanche qui a intégré le séminaire seulement au second cycle, mais Paul qui est le pionnier de notre séminaire, puisqu'il est entré en propédeutique en 2009. Donc il a franchi toutes les étapes jusqu'à l'admission comme candidat au sacerdoce en juin dernier, et maintenant, nouvelle étape, l'institution du lectorat. Et puis, j'ordonnerai un nouveau diacre en vue du sacerdoce, le dimanche 4 mai à 15h30 à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, en la personne de Paul-Marie Boutin, qui lui, après une année de stage à la cathédrale, est entré au séminaire international Sede Sapientiae de Rome, et il est en train de terminer sa troisième année de théologie, donc je l'ordonnerai diacre le 4 mai prochain.
Merci beaucoup, Monseigneur. Peut-être un mot sur le prochain grand rendez-vous du diocèse. Ce sera donc le 8 juin, où le diocèse sera consacré au cœur de Jésus et de Marie.
Voilà, grande fête diocésaine, le rassemblement diocésain que nous aimons maintenant tant, qui aura lieu au complexe scolaire de l'Immaculée Conception à Pau cette année. Donc on honore un peu plus le Béarn, après avoir fait deux fois cette grande fête diocésaine sur la côte basque, donc à notre ami refuge Anglette. Et c'est au cours de cette grande célébration, de cette grande journée, que je confirmerai les adultes qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation, comme chaque année, et puis que nous procéderons à cette démarche solennelle de consécration du diocèse au Sacré-Cœur de Jésus, au cœur immaculé de Marie, en présence des reliques de Sainte Marguerite Marie à la Coque qui nous auront accompagnés tout au long de ce carême et de ce temps pascal.
Merci Monseigneur Marcaillé, merci Violaine Ricourt-Dumas, et je signale à ceux qui nous écoutent que cet entretien a été enregistré le 21 mars 2014.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escoute Israël.
Monseigneur Marcaillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.